nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachés à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Diane Poléa-Zetklin, vous êtes directrice artistique ou directeur artistique de l'Opéra de Vichy. Je voudrais savoir depuis combien de temps vous exercez cette fonction.
Eh bien, écoutez, depuis 20 ans bientôt. 20 ans bientôt ici à Vichy.
Et comment devient-on directeur artistique, ce qui est tout de même une responsabilité énorme. Vous étiez toute jeune quand vous avez commencé.
J'avais 40 ans, presque. Je suis arrivée en 1990, en effet, et j'étais à Paris avant. J'ai travaillé dans des festivals, dont le Festival Estival de Paris. Ensuite, j'ai travaillé avec Philippe Hervègue comme directeur de la communication de son orchestre, les Champs-Élysées qu'on avait créé, mais aussi la Chapelle Royale. Et puis j'avais très envie de créer mon propre festival autour de la musique de chambre, non seulement la musique de chambre, mais des ramifications avec le théâtre, le cinéma, les arts plastiques. Et donc, par des amis musiciens, j'ai rencontré Claude Maluret, le maire de Vichy, qui venait d'être élu en mai 89 à la tête de cette ville. Et il était à la recherche d'un programme culturel. Donc, forte de mon projet, j'étais absolument certaine qu'il serait lui aussi enthousiasmé par mon projet. Je l'ai rencontré, il m'a gentiment reçu, et puis il m'a regardé, il m'a dit « Vous connaissez Vichy ?» Ben, j'ai dit « Non, je ne connais pas Vichy. » Eh bien écoutez, quand vous connaîtrez Vichy, vous comprendrez que votre projet ne peut pas marcher. Donc il m'a invité quand même à venir visiter Vichy, et quand j'ai vu cette salle de l'opéra, et qu'il a lui aussi, il m'a fait savoir qu'il cherchait un directeur d'opéra, je n'avais jamais été directeur d'opéra. Bon, il faut savoir que Vichy, ce n'est pas un opéra traditionnel, c'est une très belle salle, une des plus belles salles de France.
Date de quand l'opéra de Vichy ? 1901, il a un décor d'ailleurs très art nouveau, très symboliste,
absolument,
magnifique.
Il est magnifique. Quand je suis arrivée, il n'y avait pas de chauffage. C'est pour vous dire que c'était un théâtre d'été. On a mis le chauffage et il était ouvert que 3 mois par an.
Tandis que maintenant, vous faites 2 saisons. J'ai vu une saison d'hiver et une saison d'été, mais finalement, entre les deux, il y a très peu de temps qui s'écoule.
Très peu de temps.
C'est presque toute l'année.
On est une des rares villes de France on a 28 000 habitants et on a 11 mois d'activité à l'opéra. Et sans oublier qu'il y a d'autres structures dans la ville qui fonctionnent. Une scène de musique actuelle, il y a une médiathèque, il y a des expositions. Donc pour une ville de 28 000 habitants, il y a une offre culturelle assez innombrable.
Claude Maluret, justement, va vous remettre le prix Allen, donc pour ce prix de l'opéra, pour récompenser tous les efforts que vous avez faits pour sa ville. Comment arrive-t-on à donner une réputation nationale et internationale à un opéra ?
Il faut comprendre que cette salle a un passé musical, historique, extraordinaire. Quand on pénètre pour la première fois dans cette salle, on est quand même impressionné. C'est un peu pesant cette histoire musicale, une histoire musicale, parce que les plus grands sont venus ici. Vichy était une ville vraiment pour construire une salle de 1400 places quand même. Dans les années 1901, il fallait vraiment qu'il y ait un passage, qu'il y ait des artistes qui occupent ce lieu. D'ailleurs, on est protégé par Réjeanne, par Sarah Bernard, par ces artistes qui sont illustrés sur le plafond de la salle de l'Opéra de Vichy.
Il y a eu des grandes créations ici.
Alors, il y a eu des grandes créations. Il semblerait qu'il y a eu un orchestre qui a existé jusque dans les années 50, mais qui était un orchestre d'été, enfin, un orchestre qui venait pendant la saison. Tous les artistes du début du XXe siècle, je crois, sont passés par l'Opéra de Vichy. D'abord, grâce au thermalisme, parce que c'est vrai que le thermalisme était un appel extraordinaire et que Vichy est vraiment connu pour son thermalisme, l'était en tous les cas. La ville maintenant est en train de prendre une autre dimension, mais le thermalisme subsiste et existe encore, mais il s'est transformé en remise en forme, maigrir à Vichy, etc. Mais cette salle, en tous les cas, a une histoire musicale, avec le ballet du Martí Cuevas qui était là, avec Richard Strauss qui est venu diriger en 1935 Salomé, avec tous les artistes. Et on continue, en fait, cette histoire, parce que j'invite des artistes confirmés, mais j'invite aussi des artistes en devenir, en quelque sorte. Ils le sont, bien sûr, mais leur réputation n'est que peut-être pas encore à la hauteur de leur talent. Donc on continue ça d'une manière totalement différente, et on l'ouvre à toutes les disciplines du spectacle vivant. Et je crois que c'est ça qui est important. Nous n'avons pas la lourdeur d'un orchestre, nous n'avons pas la lourdeur d'un chœur, nous n'avons pas la lourdeur d'équipe de décoration, ce qui est pénalisant quelquefois, mais en même temps une grande liberté, et qui nous permet d'accueillir, et moi je coproduis avec mes collègues, que ce soit l'Opéra d'Avignon, l'Opéra de Lausanne, Saint-Étienne, etc., nous coproduisons ensemble des ouvrages lyriques.
Combien de temps à l'avance faut-il s'organiser pour monter une saison, pour être sûr d'avoir les artistes ? Là, je vois que, par exemple, l'été 2009, nous sommes actuellement en automne 2008, est déjà prêt.
Donc pour les opéras.
Au moins un an avant.
Pour les opéras. Tous les opéras, on travaille 2-3 ans à l'avance. Parce que, comme je ne suis pas indépendante, que je suis dépendante de mes confrères, directeur d'opéra, nous montons ensemble des programmes que nous avons envie de voir réalisés sur la scène de l'Opéra de Vichy. Donc, je dois m'inscrire moi aussi dans ce projet et importer l'orchestre, importer le chœur, importer les décors, etc. Donc, les programmes d'opéra sont arrêtés entre 2 et 3 ans. Je suis en négociation même pour 4 ans même. Je ne suis pas sûre d'être encore ici, mais c'est pour vous dire que nous travaillons vraiment
à l'avance.
Oui, absolument.
Bien sûr. Sur la façade de l'opéra, justement, on voit les différentes spectacle que vous proposez, opéra, musique symphonique, récital, ballet, danse, théâtre, jazz, variété, humour. Quelle est la part des uns et des autres ? Par exemple, le ballet tient-il une part particulièrement importante par rapport au lyrique ?
Il est, je dirais, égal au lyrique. Ce sont deux disciplines que j'ai souhaité développer à Vichy. Le ballet, alors le ballet classique, mais le ballet contemporain aussi. Donc il y a des propositions contemporaines avec des chorégraphes qui sont Jean-Christophe Maillot, avec évidemment Nanette Gluchak, c'est toujours du néoclassique. Nous avons fait des spectacles de hip-hop. Personnellement, j'aime beaucoup ça et je trouve que ce sont des gens absolument remarquables. Quand ils travaillent en plus avec des chorégraphes qui s'inspirent de leur art, qui s'inspirent de leur habileté en quelque sorte. Mais le ballet est inscrit dans les deux saisons. Alors, quelquefois, c'est au profit de l'opéra, quelquefois au profit des ballets. Tout dépend aussi de ce que j'ai envie de promouvoir en quelque sorte. Donc, ce sont les deux grands axes. Ensuite, il y a en été une saison qui est marquée d'une manière plus forte dans la discipline de la musique. Alors, toute extension, musique de chambre, récital de piano, quatuor à cordes, musique symphonique et opéra, avec quand même des incursions pour le ballet et une ou à deux soirées consacrées au jazz ou à un grand artiste de variété, puisque nous sommes en liaison pour 2 soirées avec l'Hippodrome de Vichy, qui a la semaine de trop, la semaine de galop. Vous savez, on est une ville où on doit travailler
tous ensemble. C'est au moins
ensemble.
Sympathique avec la devise de Bourbonnais, Haleine, justement, et vous allez recevoir ce prix Haleine. J'ai remarqué dans les propositions de spectacles de la saison 2008, tout de même de grands classiques, Carmen, Norma, Roméo et Juliette. Est-il important de faire du grand classique, j'allais dire du connu, du grand public?
Alors, ce sont des titres connus, en effet, notamment pour le répertoire lyrique. Donc, Norma, on le fait très rarement. Donc, je ne l'avais pas fait depuis, je crois, 1992. Donc, j'ai laissé passer un laps de temps. Cette production était intéressante parce que c'était une adaptation du Norma d'Orange, donc avec Marseille et Avignon. Et je crois que c'est important aussi que l'on donne au public qui a envie de voir ce répertoire, qu'on leur propose.
Bien sûr, voilà. Il n'y a pas de raison de l'en priver parce que c'est connu.
Voilà. À côté de cela, vous aviez quand même deux ouvrages qui étaient moins connus, comme la soirée consacrée au compositeur Giancarlo Menotti, Le téléphone et Amalia va au bal, qui n'était absolument pas connu du grand public, mais qui a permis aussi de faire connaître ces ouvrages et ces jeunes artistes. Pour le ballet, c'est une relecture. C'est Roméo et Juliette, en effet, la musique de Prokofiev. Mais c'est une relecture qu'en fait Bertrand Date, qui est donc à la tête du ballet du Rhin, et qui nous a proposé une lecture admirable et extraordinaire, qui va très très bien en plus avec la vie de Prokofiev, qui n'a pas été aussi simple. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est pas le ballet classique, le titre.
Le titre est classique, mais il y a toujours une découverte.
Voilà, il y a toujours une découverte d'un
création,
travail.
En fait.
Voilà. Un travail d'un chorégraphe. Je crois que c'est ça qui est important. C'est de montrer comment, avec les œuvres inscrites au répertoire, on peut les lire d'une manière différente. comme Carmen, c'est une relecture également. Le metteur en scène nous a fait une proposition, et c'est ça qui est intéressant. Je veux dire, on n'a pas envie de voir toujours les mêmes choses, on n'a pas non plus envie de voir quelque chose qui ne soit pas cohérent avec l'ouvrage. Quelquefois, des metteurs en scène se moquent un peu. À l'Opéra de Vichy, en tous les cas, et les opéras avec lesquels je travaille, on a quand même un respect de la partition et un respect du contexte historique, en tous les cas, quand il y en a un. Et ça, c'est très important.
Une dernière question. Vous avez évoqué, j'ai vu dans le programme, les 6e rencontres lyriques européennes. Qu'est-ce que ces rencontres ? Est-ce vous qui les avez initiées ?
Oui, on ne peut pas faire de l'opéra tout le temps à Vichy, parce que je vous ai expliqué que nous étions une coquille magnifique, un écrin splendide, mais sans équipe. Donc, j'ai voulu proposer, pour préserver l'opéra à Vichy, et travailler aussi avec mes confrères qui ont orchestre et chœur, à une période où ils ne sont plus en vacances. Nous sommes dépendants quand même des maisons d'opéra qui, elles aussi, sont dans les festivals ou en vacances. Donc, j'ai voulu créer un moment merveilleux dans le Bourbonnais, c'est-à-dire la fin de l'été, le début de l'automne, un espèce de festival lyrique. Et un rendez-vous, maintenant annuel, toutes les fins de semaine, 3 ou 4 rendez-vous selon les années, où on peut venir entendre, voir, écouter de l'opéra à l'Opéra de Vichy. Et ces rencontres européennes, pourquoi ? Parce que d'abord, la musique, elle est d'essence, je dirais, plus qu'européenne,
elle est sans frontières,
universelle, voilà. D'abord, universelle, mais européenne, parce que je travaille avec aussi bien les Italiens, les Belges, les Anglais, les Hollandais et les Français, bien sûr, que les chanteurs viennent de toute l'Europe, même au-delà. Pour le voyage à Reims, par exemple, nous avons clôturé cette 5e édition avec le voyage à Reims de Rossini, qui est un travail absolument remarquable. Nous avions, parmi les 18 chanteurs solistes, je crois, nous avions vraiment un panorama des pays européens. Donc c'est vraiment le point d'orgue de cette saison estivale, avec l'opéra, évidemment, qui clôture merveilleusement bien une saison estivale, avant de courir dans les frimas de l'hiver.
Diane Polia-Zetline, je vous remercie infiniment. Vous recevrez le prix Allen pour tout le travail que vous avez consacré à l'opéra de Vichy. Je suppose que cette récompense vous fait plaisir. Elle vous sera remise par Claude Malhuret, justement, maire de Vichy, prix Nobel de la paix. Je pense que vous êtes heureuse de cette récompense.
Ah ben je suis plus qu'heureuse. Je suis d'abord très flattée et très honorée que le sénateur Cluzel ait bien voulu, avec son comité, m'offrir ce prix, en tous les cas cette distinction, et je suis d'autant plus touchée que Claude Malhuret, maire de Vichy, qui m'a fait venir à Vichy. En fait, c'est à lui, c'est à lui que je dois beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est un homme que je respecte et que j'admire énormément, et qui a fait de Vichy ce Vichy contemporain, et qui m'a donné la chance, grâce à ce patrimoine, parce que nous avons un patrimoine magnifique à Vichy, il a fait revivre ce patrimoine, il l'entretient, et je lui en sais gré, évidemment.
Il y a aussi des gens qui, je crois, ont aidé à leur manière. J'ai entendu parler de Madame Noël et Monsieur Gabriel Perronnet. Ils ont créé une fondation qui a aidé à la création du musée, si
absolument.
J'ai bien
compris. Il y a le musée de l'Opéra, donc, qui est géré par une association et qui est géré par Josette Avizet, qui a fait un travail remarquable également pour le patrimoine musical de l'Opéra de Vichy. Donc, toutes les partitions ont été répertoriées, tous les ouvrages qui ont été donnée ici. Elle a une collection magnifique de photos, de bouts de décor, d'autographes, des réductions d'orchestres qui ont été faites et qui sont vraiment uniques. Donc elle a répertorié tout cela, et il est vrai que monsieur et madame Perronnet ont donné la possibilité de faire que ce patrimoine puisse vivre, et c'est Josette Alvizet qui s'en occupe de manière magistrale.
Alors, on va rendre hommage à ces donateurs, monsieur et madame Gabriel Perronnet, et vous remercier, Diane Polia-Zetline, de cette courte interview, en nous réjouissant de cette distinction qui vous sera remise par monsieur Claude Malhuret.
Je vous remercie infiniment.
Merci.